Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Cette semaine, au Héros anonymes, nous parlerons de santé avec nos invités, tant la santé physique que mentale. En première partie, nous partons à la découverte des expéditions nature, dites aventures thérapeutiques, organisées par la Fondation sur la pointe des pieds pour les jeunes atteints de cancer. La responsable des communications, Laurence Yel, a elle-même traversé cette épreuve du cancer alors qu'elle était adolescente. Avec courage, elle a marché pendant des kilomètres avec un sac à dos de 45 livres sur le dos alors qu'elle en pesait moins du double. Laurence nous racontera comment cette expédition a changé sa vie, tout comme celle de centaines de jeunes participants aux aventures thérapeutiques de la Fondation sur la pointe des pieds. En seconde partie, nous découvrirons l'aide essentielle qu'apporte l'organisme La Boussole aux proches de personnes atteintes de troubles de santé mentale. Depuis plus de 40 ans, La Boussole soutient ceux qui soutiennent et qui vivent parfois, en fait souvent, un sentiment de culpabilité lorsqu'ils se sentent essoufflés et dépassés par la santé mentale de leur enfant, de leurs parents ou de leur conjoint-conjointe. Nous accueillons la directrice générale de La Boussole pour nous parler de l'incroyable travail fait auprès des proches, Chantal Godin. Une courte pause et on accueille Laurence Yel de la Fondation sur la pointe des pieds. La Fondation sur la pointe des pieds organise des aventures thérapeutiques pour les jeunes atteints de cancer. On dirait ici jeunes entre 14 et 39 ans. Et la responsable des communications de la Fondation, Laurence Yel, connaît bien le sujet. Elle le connaît de l'intérieur. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
Je vois pas qui pourrait être une responsable des communications plus pertinente qu'une personne qui a déjà vécu la réalité des participants.
Je suis tout à fait d'accord.
vous dites que ça a changé votre vie, cette expédition-là. Comment, Laurence?
En fait, moi, ça m'a permis de voir le cancer comme un tremplin pour aller plus loin parce que je me dis, si c'est pas un cancer qui m'arrête, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Ça m'a permis d'enlever toutes les limites qui pouvaient se placer devant moi puis de juste voir au-delà de l'horizon pour aller plus loin.
Donc, comme si ce que vous avez vécu, c'est quasiment comme le pire qu'on peut vivre et le fait d'avoir sorti de cet épisode-là, ça vous donne confiance maintenant plus en la vie ou?
Bien, confiance en mes capacités, oui. Confiance en ce que je peux accomplir, confiance en la vie, oui. Parce que, en effet, c'est une épreuve que c'est pas tout le monde. C'est pas une épreuve commune, en fait. Puis, à l'âge que j'avais, l'expédition, ça m'a permis de retrouver confiance en moi, confiance en mes capacités, de me retrouver dans un cercle avec des gens qui me comprennent vraiment, qui ont un vécu similaire, mais aussi de connecter vraiment avec des gens. Parce que je peux témoigner que, quand je suis retournée à l'école après le cancer, mes meilleurs amis ne me comprenaient plus.
Il y avait un décalage.
Oui, tout à fait.
Abandonnée.
Oui, mais le mot est fort, mais oui, elles m'ont dit que j'étais trop mature. Mature pour elles. Oui.
Ça vous avait tellement fait...
C'était vraiment un décalage.
Ça vous avait fait cheminer beaucoup.
Oui, bien déjà... Quand j'étais jeune, en quatrième année, mon enseignante, elle me disait que j'étais une élève mature sans savoir vraiment ce que ça voulait dire à cet âge-là. Puis j'avais rien vécu encore.
Donc, c'était déjà en vous.
Oui, c'était déjà en moi d'être une enfant mature, mais là, d'avoir vécu ça à l'adolescence. Oui, ça fait grandir, ça fait vieillir, ça remplit un sac à dos de vie, d'expérience que les gens de mon âge ne vivent pas habituellement.
Parle de sac à dos. Je lisais un petit peu votre histoire. Là. Vous avez fait des centaines de kilomètres avec un gros sac à dos de 45 livres sur le dos.
C'est ça, c'est des sacs à dos de randonnée. Là. Mm-hmm. Je ne sais plus combien de kilomètres exactement on a parcouru. Là. Ça fait quand même quelques années. C'était en 2012. Mais oui, à ce moment-là, je devais peser environ 90 livres. Puis mon sac devait en peser 45. C'est déjà de... La première journée de parcourir une dizaine, quinzaine de kilomètres avec un sac à dos de ce poids-là, puis de, tu sais, de suivre le groupe. Je me rappelle, j'étais la dernière en arrière, mais je l'ai fait comme les autres. Puis on était tous très fiers de cet accomplissement-là parce que à la base, ils nous avaient dit qu'on ferait comme 9 kilomètres, je pense, cette journée-là. Puis finalement, à un certain point, on était tous un peu. On se demandait, on était comme, il me semble que ça fait plus que 9 kilomètres qu'on marche. Puis finalement, oui, ils nous ont dit à la fin de la journée, oui, oui, vous avez été capable, on a fait 14 kilomètres.
Wow!
C'est de constater les forces qu'on pense qu'on a, des forces en nous qu'on pensait plus avoir. Parce que je me rappelle juste après une semaine à l'hôpital, quand je suis rentrée à la maison, j'étais une sportive, je faisais de la danse 6 heures par semaine, je jouais au soccer. Puis après une semaine à l'hôpital, je suis rentrée à la maison, j'avais de la difficulté à monter les marches.
Wow! J'imagine que les muscles s'affaiblissent aussi.
Mais
durant
oui,
les...
ça s'atrophie super rapidement. Exactement.
Et vous étiez adolescente, donc, Laurence, quand vous avez reçu le diagnostic?
Oui, j'avais 14 ans. Ben, j'avais 13 ans, puis j'ai eu 14 ans au cours du mois, en février 2011.
Donc là, notre vie change complètement. Comment on vit ça?
Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positive. Puis je me revois encore dans la salle d'urgence à Saint-Justine quand le médecin est rentré. Puis moi, j'avais dit quand on quittait ce soir-là, on allait manger au restaurant. Puis je savais déjà qu'est-ce que j'allais manger. Puis je l'avais dit au médecin. Puis quand le médecin est rentré après que j'ai passé un scan puis qu'on ait fait des prises de sang, il est rentré puis il m'a dit ben alors, c'est pas ce soir que tu vas aller manger au restaurant, on a trouvé que tu as une tumeur au cerveau de 30 mm de diamètre. On ne sait pas si c'est bénin ou malin. Mais à 14 ans, bénin ou malin, en fait, là, j'en avais 13, mais bénin ou malin, ça, c'est pas...
Ça ne veut pas dire grand-chose.
C'est pas dans mon jargon. je pense que j'avais jamais entendu ces mots-là. Ma réaction, ça a été de dire « j'ai un cancer ». Puis ils m'ont dit « non, on sait pas si c'est cancéreux ou pas ». Fait que déjà, à ce moment-là, moi, je l'ai vu, mes parents qui étaient là avec moi s'affaisser sur les petites chaises à côté. Puis je me suis assise carrée sur le petit lit d'urgence. Puis j'ai dit, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis ça a été ça, mon discours, tout au long des 18 semaines de traitement que j'ai eu.
Wow.
C'est que j'ai toujours été dans le positif. C'est sûr que ça m'a rattrapé quelques années après d'avoir été dans l'humour et dans le positif. À un certain point, j'ai fait comme si... Un peu, il ne s'était rien passé dans ma vie parce que j'ai fini mon secondaire en même temps que tout le monde. J'ai fait l'école à la maison et tout ça. C'est une perfectionniste pragmatique comme je suis.
Quand vous dites que ça vous a rattrapé, qu'est-ce qu'on évoque ici?
À un certain point, c'est sûr que quelques semaines après, à ce moment-là, il ne savait pas si c'était cancéreux ou pas. La journée où il allait faire une biopsie, ils ont reçu des résultats sanguins. Qui confirmait en fait que le facteur en tant que tel, la normale c'est de 0 à 10, mais j'étais à 4800. C'est qu'il savait que c'était cancéreux, il n'avait pas besoin d'aller faire une opération à la tête, ce qui était une chance comme telle, parce que c'est toujours risqué une opération au cerveau, d'accrocher quelque chose puis de causer des paralysies ou peu importe, un impact. Donc, cette journée-là, ils m'ont questionné, ils m'ont demandé, ils m'ont expliqué que c'était cancéreux, puis ils m'ont dit si j'étais d'accord, on garderait la salle d'opération pour te poser un cathéter pour faire de la chimiothérapie. Puis moi, ma réflexion, ça a été comme, ben qu'est-ce qu'on attend, go? On y va, on avance. Puis quelques semaines après, c'est sûr que là, c'est pas comme les enfants qui reçoivent un diagnostic, c'est des parents avec leurs enfants qui ont 2-3 ans qui reçoivent le diagnostic de cancer. Les enfants comprennent pas ce qui se passe. Puis c'est une autre difficulté de leur imposer tous les traitements, les piqûres, toutes les douleurs. Mais là, à 14 ans, je comprenais très bien ce qui se passait parce que j'ai connu aussi des jeunes qui ont eu des cancers qu'elle a à la même école que moi. Mm. Puis, c'est sûr, la réalité m'a rattrapée une certaine journée. Ça a été une journée particulièrement difficile de douleurs internes, de cris, de pleurs. Mais tu sais, la manière que je l'ai imagée, c'est quand on est jeune, puis qu'on va à la mer, ça nous arrive tous de se faire un peu, excusez le terme, mais se faire ramasser par une vague, puis ouais. rouler dans le fond, se faire écorcher par le sable. Mais on en ressort tous parce qu'on veut continuer à avancer, puis on veut continuer à nager, puis à profiter de l'océan. Fait que moi, ça a été un peu le même réflexe de me dire, je peux pas rester là en boule à pleurer, il faut que je me relève puis que je continue à profiter.
Wow! Vous êtes vraiment inspirante. Et ça, c'était votre attitude avant de participer aux aventures thérapeutiques de la Fondation sur la pointe des pieds? Vous aviez déjà cette attitude-là?
Oui, bien, c'était déjà en mode positif. Je faisais des blagues un peu, surtout parce que j'étais extrêmement enflée à cause de la cortisone, puis tu sais, j'avais plus aucun cheveu, j'avais plus aucun poil, puis je me mettais une couverture sur l'épaule, puis je disais que j'étais un moine tibétain, puis j'ai toujours tout tourné un peu à la dérision, mais c'est sûr que, comme je disais, ça m'a rattrapé un coup que j'étais plus vieille, puis que je travaillais comme caissière dans une épicerie, puis toute la journée, on demande aux gens « Bonjour, ça va bien? » Puis ils me demandent « Oui, vous? » Puis c'est à un certain point, je me suis rendu compte que mon « oui, ça va bien », il n'allait pas bien. Mm. Fait que c'est comme ça que ça m'a rattrapé un coup que j'avais fini le secondaire et tout. Puis parce que j'ai fini le secondaire, je suis rentrée au cégep, puis j'ai fait mon cégep en 2 ans. Mm. Puis là, je rentre à l'université, puis c'est là que j'ai fait « Wow! » J'ai eu besoin d'aide, de consulter, de parler de ce que j'avais vécu, parce que j'ai toujours été... comme m'appelait mon père quand j'étais malade, le petit bulldozer, j'avançais sans regarder derrière, puis je menais tout le monde avec moi dans mon attitude positive. À un certain point, j'ai fait « OK, c'est pas rien ce que j'ai vécu. »
Non, mais se le permettre aussi.
Ben c'est ça, exactement, de mettre un genou par terre pour faire comme « OK, là, j'ai besoin d'aide. » Là ouais.
Et l'aventure thérapeutique que vous avez vécue, ça se situe où dans ce parcours de vie?
Ça s'est passé en 2012. Moi, j'ai eu mon diagnostic en 2011, puis c'est en 2012 que j'ai fait mon expédition. À ce moment-là, j'étais en secondaire 3. Mm. Puis ça tu sais, c'est que les impacts sont pas juste pendant l'expédition, mais à long terme. Mm. Parce que moi, j'ai été tellement touchée par cette expérience-là, j'ai tellement grandi pendant cette expédition-là, de reprendre confiance en mes forces, puis d'accomplir des choses que je pensais jamais être capable de faire. Je suis restée attachée à la Fondation. J'ai été bénévole avec eux pendant 10 ans avant qu'on m'offre le poste aux communications.
Bien, c'est ça. Je comprends là, que ça a tellement changé votre vie que c'est même devenu, à quelque part, une mission de vie pour vous.
Bien, ma mission de vie, je me suis toujours dit que c'était de partager l'espoir parce que les histoires comme la mienne qui finissent bien, il n'y en a pas beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est mon travail de faire ça.
Partager l'espoir, que c'est beau.
Oui, il y a une espèce de paradoxe de dire, à l'âge que j'ai, d'avoir un emploi aussi qui me prend autant au cœur.
Significatif, oui.
Je trouve que c'est vraiment une chance que j'ai.
Qui fait du sens pour vous.
Oui, exactement.
Qui est en écho avec votre histoire, avec votre personnalité, mais puis vous savez très
exactement
bien
avec
qu'est-ce
mes
que...
valeurs, ouais.
Oui. Donc, concrètement, comment ça se passe, une aventure thérapeutique? Comment vous en êtes venu à appeler ça? Parce que, bon, on pourrait dire une expédition, une randonnée nature, mais là, on juxtapose vraiment aventure et thérapeutique. Fait que décrivez-nous un peu l'expérience qu'on est appelé à vivre.
Mais c'est vraiment, en fait, ce qu'on appelle de l'intervention en contexte de nature et d'aventure. Il y a un baccalauréat à ce sujet-là à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi.
Ah oui.
L'intervention par la nature à l'aventure, en fait, ça correspond, dans les termes scientifiques, là, à une modalité d'intervention axée sur l'amélioration du bien-être des personnes par le recours à des activités structurées qui sont réalisées en milieu naturel. De plus en plus, à travers les années, les études, les tendances qui se sont développées, les bienfaits de la nature sont assumés maintenant du côté scientifique. C'est nommé que la nature dégage certains éléments qui viennent nous améliorer le bien-être, puis c'est ça qu'on cherche à à créer avec les expéditions d'aventure thérapeutique. La mission de la Fondation, c'est vraiment de changer la vie des jeunes de 14 à 39 ans atteints de cancer en leur offrant de participer à une expédition d'aventure thérapeutique.
Bien, je lisais qu'il y a même un terme, je pense, japonais pour le bonheur d'être en forêt. Qu'il y a des prescriptions nature de plus en plus qui se font parce qu'on reconnaît le pouvoir guérisseur de la nature.
Tout à fait. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est le terme, mais en gros, ce qu'on dit à la Fondation, c'est que les traitements médicaux conventionnels, ils parviennent à traiter le corps. L'aventure thérapeutique contribue, quant à elle, à guérir l'âme, le cœur et l'esprit. Les interventions qu'on fait à la Fondation permettent aux jeunes atteints de cancer de changer leur histoire, de prendre conscience de leurs forces et de retrouver leur rêve, en fait.
Oui, allez, continuez.
J'allais dire qu'on offre deux types de programmes à la Fondation. On offre les expéditions évasion qui s'adressent aux jeunes qui sont en traitement ou qui ont des limitations des suites d'un cancer. C'est des programmes qui durent 4 jours.
D'accord.
Qui se déroulent toujours en Rabaska au réservoir du Poisson Blanc en Outaouais, dont l'objectif, c'est de permettre aux jeunes de s'évader du milieu hospitalier et de la routine du quotidien. Il faut savoir que sur chacune des expéditions qu'on réalise, il y a une équipe médicale bénévole qui vient. Il y a un médecin qui est là, il y a une infirmière, il y a un intervenant social. Oui, ils sont là bénévolement.
Wow.
Parce que eux-mêmes voient l'effet, l'impact que ça a là sur les jeunes qu'ils accompagnent. Puis c'est un goût de revenir-y parce qu'ils en sortent changés aussi. Souvent, je parle pour mon expérience, mais j'imagine les infirmières, les médecins qui traitent des patients dans les hôpitaux, ils ne les voient jamais au meilleur de leurs conditions.
Ça fait du bien de sentir qu'on a accompli notre contribution. Mais bénévole, c'est exactement. Déjà, on parle beaucoup du système de santé qui est essoufflé et que ces gens-là sont épuisés et ils trouvent le temps de venir vous accompagner comme ça. C'est vraiment extraordinaire.
Ils font le choix, ils font le choix de venir nous accompagner. Puis il y a aussi, comme je disais, les grandes expéditions qui s'adressent de ce côté-là aux jeunes qui sont en rémission, avec un maximum de 5 ans de rémission. Ça dure 8 à 15 jours. C'est des expositions qui sont partout, cette fois-là, sur le territoire canadien, qui mettent de l'avant plusieurs types d'activités allant de la randonnée pédestre à la descente de rivière en rafting, au kayak de mer en passant par le traîneau à chien, le ski de randonnée, les raquettes. L'objectif est vraiment axé sur le dépassement, tandis que l'exposition évasion est plus axée sur l'évasion, justement, du quotidien, de la lourdeur, de ce qu'ils peuvent vivre, leur permettre d'avoir un moment pour respirer, pour être en nature avec d'autres jeunes qui sont dans la même situation qu'eux.
On va faire ça, Laurence, prendre un petit moment pour respirer. On prend une courte pause et on poursuit notre discussion au Héros Anonymes. Chantal Doré au micro des Héros Anonymes. Nous sommes en discussion avec Laurence Yel, responsable des communications de la Fondation Sur la Pointe des Pieds, qui organise des aventures thérapeutiques pour les jeunes atteints de cancer. Et Laurence a vécu l'expérience elle-même de l'intérieur. Laurence, je vous écoutais avant la pause, le Rabaska, canot, expédition et autres, et je me dis... Comment on fait quand notre santé comme ça, elle a été malmenée, que nos muscles ont peut-être un peu fondu pour se livrer à un défi comme ça? Spontanément, je me suis dit, bon, c'est parce qu'ils sont jeunes, mais est-ce qu'on retrouve, un élan d'énergie qu'on pensait pas qu'on avait?
Bien, en fait, chacune des expéditions qui sont d'aventure thérapeutique qui sont réalisées à la Fondation sont adaptées aux jeunes qui y participent. C'est sûr qu'on part pas en fou. C'est pas un moule dans lequel on essaye de faire rentrer les jeunes. C'est vraiment un moule qui s'adapte aux conditions des participants qui participent à l'expédition.
Un peu comme quand on fait l'exercice qu'on nous dit, c'est ça, qu'on suit ses limites, puis on peut suivre la personne, le modèle 2, qui nous dit si on n'est pas capable de faire ça. Donc, mais là, ce que je comprends, c'est que vous êtes toutes à peu près au même niveau, vous vivez toutes la même réalité.
Oui, mais il y a un comité aussi médical aviseur qui est consulté avant chacune des expéditions avec les dossiers médicaux des jeunes qui participent à l'expédition pour voir, OK, comment on envisage l'expédition, c'est quoi les distances qu'on veut faire par jour, c'est quoi qu'on... un peu les... j'ai seulement l'expression en anglais, je suis désolée, les milestones qu'on veut accomplir, c'est quoi qu'on
les
veut
jalons,
faire.
Oui.
Ouais, c'est quoi les jalons qu'on veut accomplir avec eux, c'est quoi qu'on veut le... jusque où on peut aller. Donc, comme je disais, c'est pas un moule dans lequel on les fait rentrer, c'est vraiment chacune des expéditions qui est créée selon les conditions, qui est adaptée selon les conditions des jeunes qui y participent.
Est-ce que vous avez déjà eu peut-être à prévoir des situations d'urgence quand quelqu'un, malgré tout, avait peut-être une petite faiblesse?
Oui, il y a toujours des plans d'urgence, puis un ange gardien, comme on l'appelle, il y a un comité, en fait, d'urgence qui est en place pour chacune des expéditions, avec des membres qui ne sont pas sur le terrain, mais avec qui on peut être en contact si jamais il y a un enjeu. Il y a des évacuations qui peuvent être faites dans tous les cas, qui sont évaluées comment ça va être fait, ça va être par bateau, ça va être par hélicoptère, peu importe. Il y a toujours un point de sortie qui est évalué. Oui, c'est des choses qui ont déjà été réalisées. Si je parle juste pour mon expédition, moi, j'ai vécu en 2012. Il y a une participante qui a été évacuée par hélicoptère parce que elle aussi, elle avait eu un cancer du cerveau. Mm. Elle, ils l'ont opéré à la tête, puis il y a eu une paralysie, en fait, après ça, de son côté du corps. Je ne sais plus si c'était le côté droit ou gauche. Puis à un certain point, c'était rendu trop difficile pour elle de poursuivre l'aventure dans les Rocheuses canadiennes. Donc, elle a été évacuée par hélicoptère. Mais elle a été ramenée à la fin pour faire les derniers kilomètres avec nous, pour qu'elle aussi elle puisse avoir ce sentiment-là d'accomplissement malgré la condition là qu'il a fallu qu'on évacue.
Que c'est beau de lui permettre de boucler l'aventure avec vous.
Oui, exactement.
J'imagine que ça doit créer des liens très particuliers entre les participants.
C'est vraiment pas très long qu'on devient une petite famille. Un des rêves, c'était de participer à une autre expédition, puis j'ai pu accompagner.
Ah oui, comme accompagnatrice?
Oui, comme photographe blogueuse. Puis de voir, tu sais, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, puis là, d'avoir le regard de pas d'évaluatrice, là, mais de pouvoir voir ces jeunes-là évoluer, de voir que les plus timides au début, ceux qui nous regardent jamais dans les yeux, qui ont toujours la tête baissée, mais c'est ceux qui rayonnent le plus au final, parce que c'est eux qui en bénéficient le plus, qui en ont le plus besoin. De sortir de cette solitude-là, de cette différence-là, de se sentir enfin accepté, de pouvoir s'exprimer sans avoir à tout expliquer, d'être compris, ça n'a pas de prix.
Vous dites être compris. Souvent, les personnes qui sont pas malades peuvent parfois être maladroits, sans le vouloir, parce qu'on ne sait pas toujours quoi dire. Comment vous réagissiez quand les gens peut-être pouvaient vous dire « Ah, je comprends ce que tu vis ».
Mais c'est toujours de la personne de qui ça vient aussi. Mais c'est de pas le prendre personnel. Je pense que c'est la pire chose à faire. Mm-hmm. C'est de savoir qu'en fait, d'accepter que cette personne-là comprend pas vraiment. Puis, même si on voulait les confronter, ça servirait à rien. C'est juste. Puis j'ai appris ça aussi après quand je suis retournée à l'école, par exemple, avec les gens de la même année que moi. De comprendre que eux, leur pire dans la vie, c'est peut-être d'avoir un rhume ou que leur mère ait mis deux bâtons de pareil dans leur lunch, tu sais. Moi, mon pire, c'était vraiment à un autre niveau.
Ouais.
J'ai appris rapidement que ça ne servait à rien de me laisser impacter par ça puis d'être un peu insultée parce que, au final, eux, ce qu'ils ont vécu de pire, c'est ça, tu sais.
Ouais,
Si moi, ça a été un cancer, la chimiothérapie, la radiothérapie, eux, leur expérience, leur vécu, ce qu'ils ont dans leur sac à dos, dans leur bagage de vie, c'est pas la même chose que moi.
C'est beaucoup d'empathie. J'entends beaucoup d'empathie dans votre voix. J'imagine qu'il y a des gens comme ça qui ont été tellement empathiques à votre histoire, qui ont envie d'y participer peut-être pour organiser des levées de fonds. J'ai entendu parler du défi des deux Mario. Qu'est-ce que c'est?
Le double défi des deux Mario, c'est un événement de financement qui a lieu à la Fondation, parce qu'il faut savoir en fait qu'on est financé seulement par des dons et des levées de fonds.
Ah oui, aucunement, puis, aucune autre.
Non, on n'a aucune autre source de financement. Puis le double défi des deux Mario, c'est un de ces événements de financement-là qui dure depuis 17 ans. Puis d'ailleurs, ce matin avait lieu le départ de la deuxième traversée de la 17e édition. C'est un événement qui se passe sur 3 jours. Où les participants, il y avait une cinquantaine de participants par traversée. L'autre traversée a eu lieu le week-end dernier.
Ils traversent quoi, Laurence?
Ils traversent le lac Saint-Jean.
Ah oui, OK, d'accord.
Puis en raquette, oui. Donc, c'est drôle parce que récemment, j'en parlais avec un ami. Puis lui, la traversée du lac Saint-Jean qui est connue, c'est à la nage.
Oui, c'est ça.
C'est quoi, il y a un paquebot devant eux? Ben non, Félix! Ils traversent en raquette et en ski, fait que c'est un autre genre de défi parce que les participants doivent traîner un traîneau derrière eux qui peut peser entre 40 et 60 livres, dépendamment de la grandeur de la personne. C'est ton matériel parce qu'ils dorment 2 nuits sur le lac Saint-Jean. Évidemment, il y a une équipe de logistique qui est là, qui monte les campements pour eux. T'sais, ils n'ont pas à arriver à leur lieu de campement puis de monter les tentes. Il y a une cuisine qui est amenée aussi par motoneige sur le lac.
Laurence, est-ce qu'on peut voir des photos de ce défi-là ou peut-être même de vos photos à vous sur votre site Internet?
Oui, même que là, à distance, il y a un photographe blogueur qui est là sur chacune des traversées. Puis moi, à chaque jour, j'accueille le blog que je mets en ligne. Puis des photos sont aussi jointes à ce blog-là. Fait que dès demain, en fait, vous pouvez déjà voir sur la page Facebook de la Fondation ou sur le site de la Fondation, vous pouvez déjà voir
Excellent.
Les blogs de la première traversée avec les photos. Mais là, dès demain, je vais mettre en ligne le premier blog de la deuxième traversée du double défi des deux Mario.
On ira voir ça, Laurence. La Fondation Merci. Sur la pointe des pieds, c'était la responsable des communications, Laurence Hiel. Un grand merci. Continuez à propager l'espoir. Vous le faites très bien.
Un merci à vous pour cette belle visibilité-là.
Merci, Laurence. À bientôt.
Les héros anonymes avec Chantal Doré.
Notre second organisme aujourd'hui touche la santé mentale. Donc, on a parlé de santé physique dans notre premier bloc. Maintenant, on parle de santé mentale, la santé mentale de nos proches. En fait, y a l'organisme qu'on reçoit est vraiment là pour... Lorsqu'on a une personne dans notre entourage qui vit des enjeux de santé mentale, pour faire en sorte qu'on ne s'oublie pas nous-mêmes dans tout ça. Et on va parler des défis que ça représente avec la directrice générale Chantal Godin de l'organisme qui s'appelle La Boussole. Bonjour Chantal.
Bonjour Madame Doré.
Donc comment vous décririez la mission de La Boussole?
Bien, alors, la mission de la Boussole est de soutenir les proches de personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Alors, on les accompagne par des suivis psychosociaux, par aussi des groupes d'entraide ou une ligne d'écoute afin de les aider pour les informer, les soutenir, les accompagner, les outiller pour améliorer leur qualité de vie lorsque l'un de leurs proches est atteint d'enjeux de santé mentale.
Et est-ce qu'on fait une certaine différence sur les types d'enjeux de santé mentale? Ça va de quoi à quoi?
Bien, écoutez, ça va de troubles psychotiques à de l'anxiété, de la dépression. C'est quand même très large, la santé mentale. Et il faut savoir que nous, on aide les personnes qui vivent avec une personne qui a un enjeu de santé mentale, mais sans nécessairement qu'elle soit diagnostiquée. Des fois, on a aussi des caractéristiques qui peuvent ressembler. Alors, nous, on aide les personnes à aussi les identifier, ces problématiques-là.
Donc, d'être un petit peu alerte à notre proche va moins bien. On n'a pas évidemment de diagnostic, mais on est un peu capable un peu de quoi de l'amener peut-être à consulter. Est-ce que c'est ça, je comprends?
Ben nous, on peut pas diagnostiquer la personne mm-hmm. qui est atteinte. Alors quand un proche vient nous demander de l'aide sur différents enjeux qu'ils vivent avec mm-hmm. la personne qui est atteinte ou qui n'a pas de diagnostic, ben on est quand même capable de pouvoir identifier certains enjeux. Mais sachez que l'organisme ici ne fait aucun diagnostic, là. Alors, puis on n'a pas non plus la possibilité de pouvoir référer les gens vers un service d'aide mm-hmm. pour la personne qui est atteinte, là.
On est vraiment orienté vers le proche.
Tout à fait. On est orienté pour accompagner le proche, pour lui permettre de pouvoir bien vivre aussi avec mm-hmm. certains de problématiques, je vous dirais, qui peut subvenir lorsqu'une personne est atteinte de santé mentale. On a souvent on ne pense pas à l'entourage de ces personnes-là, mmh. comment elles le perçoivent et comment elles vivent. On veut bien aider la personne atteinte. On veut encadrer ou bien soutenir, je dirais, la personne atteinte, mais souvent on oublie que ces personnes atteintes-là ont besoin aussi de leur famille autour et qu'ils doivent bien comprendre aussi la problématique.
Et dans votre organisation, j'imagine qu'on on s'intéresse peut-être aux différents types de relations, parce que j'essayais de voir, ça peut autant être un parent, un enfant, un conjoint, une conjointe.
Tout à fait. À la boussole, on a quand même des volets distincts, des volets adultes, jeunesse puis famille aussi. Mais oui, on accompagne toutes les personnes de l'entourage. Alors, c'est très large, autant du parent que ça peut être aussi un colocataire, un voisin, des employeurs qui ont des problématiques, qui ont des gens qui vivent avec des problématiques de santé mentale et comment intervenir auprès de ces personnes-là. Alors, on est en mesure de les accompagner, de les outiller pour qu'ils comprennent aussi les enjeux puis pouvoir bien réagir auprès des personnes qui sont atteintes.
Okay. Même les employeurs, donc vous êtes actifs là auprès dans le cas où il y a des personnes qui sont, c'est l'employeur à ce moment-là qui constate qu'un de ses employés semble vivre des difficultés, ou ça serait plus l'employé serait un proche?
Ben ça peut être un employé qui est un employé sans nécessairement mm-hmm. être un proche. On fait de la sensibilisation aussi par une formation qui vise vraiment à aider les employeurs ou les gens de la société pour démystifier, sensibiliser la population aux maladies mentales, aux attitudes et comportements privilégiés. Alors on offre des formations dans les groupes de travail, ou bien des fois avec on est allé aussi dans des logements sociaux avec les HLM pour pouvoir bien aussi vivre avec ces gens-là, puis comprendre les comportements différents qui peut alors c'est on sensibilise aussi, puis on essaie de démystifier aussi la santé mentale.
Parce que si on comprend mieux, on va être plus en mesure de réagir adéquatement, j'imagine.
Bien, tout à fait. Puis des fois, on a des comportements à privilégier. Des fois, on a des comportements différents qu'on doit privilégier avec les personnes en santé mentale pour bien comprendre aussi qu'est-ce qu'elles vivent. Alors, on est capable de pouvoir... des fois, on se dit, ben la personne, plus on va répéter, mieux elle va comprendre, mais peut-être que non. Ou on va changer notre attitude ou nos façons de faire avec les personnes avec une problématique en santé mentale. Alors, c'est vraiment la formation qui est axée sur ça.
Donnez-nous des exemples, peut-être, Chantal, de comportements à privilégier ou au contraire à proscrire.
Ben je vous dirais, des fois, les gens, on a tendance à s'impatienter. Et on comprend pas que la personne ne comprend pas, exemple. Alors, mais peut-être juste de pouvoir redire ou revoir notre discours envers cette personne-là, ben déjà là, ça fait une différence. Ne pas élever le ton, ne pas devenir en colère contre les personnes qui ont une problématique de santé mentale, parce que souvent, les personnes vont peut-être se sentir un peu plus persécutées. Alors, on doit comprendre que, bon, on reste très, très neutre dans notre façon d'agir avec les personnes. On essaie d'écouter, faire de l'écoute active, c'est très important aussi. Autant pour le proche qui vit avec la personne qui a une problématique de santé mentale, c'est aussi important d'avoir l'écoute active avec la personne atteinte que le proche qui vit avec la personne atteinte.
Mais j'imagine dans certains cas, c'est pas toujours facile. Je prends un cas que j'ai déjà vécu où il y avait une personne, en fait, de mon entourage qui a un trouble de personnalité limite et des fois, la colère peut exploser d'un coup. Comme proche, on comprend pas tout le temps qu'est-ce qui se passe.
Ouais, ben c'est la raison pourquoi justement ici il y a des intervenants qui font des suivis psychosociaux qui sont capables de pouvoir donner des outils de pouvoir aussi en parler pour trouver des solutions, trouver des façons de faire, mettre ses limites. Fait que c'est important d'avoir une façon de faire différente et les intervenants sont ici pour ça. Puis il y a aussi on offre aussi un service de proche aidant famille qui est une personne qui elle-même a vécu avec une personne atteinte et qui est capable d'accompagner les familles et de mieux exprimer aussi comment réagir ou comment. Puis ça donne leur expérience de vécu apporte une écoute différente que celle de l'intervenant, ce qui fait souvent qu'il y a un lien qui se développe entre la personne qui vient chercher de l'aide ici et la pair aidance. Fait qu'une compréhension unique, c'est vraiment un message d'espoir que la personne offre aux gens de l'entourage, là.
J'aimerais ça comprendre peut-être, Chantal, les différences entre quand notre proche est notre enfant ou quand notre proche est notre parent ou encore un conjoint-conjoint.
Oui. Ben la différence, écoutez, souvent, on essaie beaucoup je vais vous donner l'exemple, quand c'est notre enfant, que notre enfant soit atteint de santé mentale ou non. Je veux dire, on a toujours l'impression on veut protéger nos enfants, on veut vraiment qu'ils soient bien dans la société, qu'ils aient un bon travail, qu'ils soient autonomes. Alors, en tant que parent, quand on apprend que notre enfant a un enjeu de santé mentale, on devient surprotecteur, on essaie de trouver des solutions pour l'enfant, ce qui fait souvent que le proche devient épuisé à vouloir faire pour. Alors, c'est vraiment une différence entre un jeune qui, lui, vit dans sa vie de jeune, est avec un parent, exemple, qui a une problématique de santé mentale, ben il va devenir adulte plus vite parce qu'il y a des responsabilités différentes à vivre. Alors, il va devenir un jeune adulte avec des responsabilités qu'un enfant de peut-être 13, 14, 15 ans ne devrait pas avoir. Alors, c'est sûr que l'approche aussi est très différente. C'est la raison pourquoi à la boussole, on fait une distinction entre des groupes d'entraide parents, d'enfants adultes, même des groupes d'enfants, de parents avec des enfants mineurs qui ont une problématique ou un enjeu de santé mentale, et aussi vraiment des groupes ados où on peut pouvoir en parler parce qu'un enfant qui vit avec un parent qui a une problématique de santé mentale, ben comme s'il a toujours vécu dans cet environnement-là, ne sait pas que son environnement n'est pas comme la famille d'à côté, exemple.
Oui.
Pour lui, c'est un naturel. Et de parler de ça avec ses amis, ben c'est peut-être pas ce qui tente le plus non plus, là. Parce que quand on arrive à l'âge adolescence, on se rend compte des différences qui se passent d'une famille à l'autre. Et là, on se rend compte que, oups, on n'est peut-être pas... on vit peut-être pas les mêmes choses qu'un jeune de 14-15 ans.
Est-ce qu'on est capable aussi, comme enfant, de dire je perçois, même si on finissait par réaliser que c'est peut-être pas en parenthèse normal, comment faire quand on voit que notre parent, justement, est je veux pas dire dépassé, là, mais a peut-être pas les possibilités vers qui on se tourne quand on sent qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, que je sais pas, moi, par exemple, je reviens de l'école, ma mère adore tout le temps ou mon père vit telle situation. On peut effectivement, pendant un certain temps, se dire, ben, C'est normal, mais quand on voit qu'il y a une différence parce qu'on va jouer chez d'autres amis, puis on voit que c'est pas, on vit pas la même réalité, à qui on en parle?
Ben effectivement, à qui on en parle, c'est la raison pourquoi, ben à la boussole, on a quand même développé, ça fait plus de 40 ans que la boussole existe, et on a développé ce volet-là plus jeune, jeune proche qu'on appelle, et on a un agent de sensibilisation et de soutien qui va dans les écoles parler de la jeune proche aidance, qui est capable de pouvoir justement faire à travers certains ateliers et jeux pour être capable de démystifier et d'aller peut-être voir s'il y a des jeunes qui ont besoin d'aide pour pouvoir bien les référer et les accompagner ici à la boussole. Fait que ça, c'est un programme que l'on a qui est quand même très... ça fait 2 ans qu'il est en fonction et qui va vraiment vers les jeunes dans les maisons de jeunes, dans les écoles secondaires, au cégep, dans les universités, pour être en mesure. Puis on fait beaucoup aussi de kiosques de présentation pour parler de la boussole dans les écoles secondaires. Puis parler de la jeune proche aidance. Parce que, oui, on dit les jeunes, des fois, avec leurs parents, mais il y a aussi des jeunes qui vivent avec un ami qui a peut-être cette problématique-là. Et ce jeune-là devient, par ricochet, un proche aidant. Fait que ça aussi, ça devient lourd. Et à qui on en parle? Ben effectivement, à qui on en parle? Parce que souvent, quand on se rend compte que on n'a pas le même vécu que le voisin, exemple, ben là, on se dit, ben on a peut-être la honte d'en parler, la gêne, la peur, le regard de l'autre. Alors, c'est la raison pourquoi on a développé. Puis on est très présent dans les écoles pour être en mesure de pouvoir justement aller en parler et de démystifier aussi justement la santé mentale, la problématique de santé mentale. C'est quoi une maladie mentale? On a plus tendance à parler d'une maladie physique puis d'être très à l'aise avec, mais quand on parle de maladie mentale, on est très...
Encore maintenant, Chantal, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, les belles causes pour la cause et tout ça?
Oui, encore aujourd'hui. Puis je vous dirais, les jeunes sont peut-être sont plus enclins qu'avant, mais il y a encore beaucoup de parents que c'est difficile de dire que son enfant a un enjeu de santé mentale. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Et même quand les gens veulent les proches, les parents en tant que tels sont pas toujours ont pas facilement l'information justement sur c'est quoi la santé mentale, la maladie mentale. Lorsqu'on apprend qu'on a un cancer, exemple, ben on est invité et la personne qui est atteinte, on se fait dire par le médecin, ben c'est important, amenez votre entourage pour que elle puisse bien vous accompagner. Mais c'est pas ce qui se passe lorsqu'une personne est diagnostiquée avec une problématique de santé mentale. On dit pas amène ta famille avec toi pour qu'ils te soutiennent. On fait plus la demande à dire est-ce que tu souhaites avoir ta famille avec toi ou non, alors que quand on a une problématique de santé physique, ben on n'est pas demandé, on se fait dire d'amener nos membres de l'entourage autour de nous.
Pourquoi on fait cette distinction-là?
Ben écoutez, parce que ça fait longtemps que la santé mentale, ça fait pas depuis hier là, que c'est quand même tabou la santé mentale. On ne peut pas parler de ça ouvertement avec tout le monde. Puis on a encore ce réflexe-là, ce vieux réflexe-là. C'est un vieux réflexe, je dirais, qu'on a encore. C'est tabou. On ne peut pas parler de santé mentale ouvertement sans avoir quand même encore quelques préjugés. Alors, c'est encore très difficile de percer dans ce domaine-là, je vous dirais.
Je vais peut-être vous poser une question délicate, mais je me pose la question, est-ce qu'il y a des communautés chez qui c'est davantage tabou et que c'est plus difficile à en parler?
C'est sûr que avec la migration les immigrants qu'on connaît de plus en plus ici, il y a certaines cultures, je vous dirais que oui, mais c'est juste que c'est différent. Je dirais pas que c'est plus tabou, je dirais que c'est différent. Et ça, nous, les Québécois, on doit aussi s'adapter à ça, à être ouverts aux nouvelles cultures, pour être capable de pouvoir les accompagner aussi, parce qu'ils font partie prenante de la population québécoise. Fait qu'on doit aussi être ouvert à ça et de pouvoir trouver des façons de les accompagner. Puis de pouvoir aussi justement parler, faut s'adapter à leur culture, eux s'adaptent à la nôtre, puis il faut ensemble progresser
dans un mieux vivre ensemble. Oui.
Oui, c'est ça, tout à fait, dans le mieux vivre.
Chantal, je vous propose une courte pause et on poursuit notre entretien ensuite.
Merci.
Merci. Notre dernier bloc aux héros anonymes, nous discutons avec la directrice générale de l'organisme La Boussole, Chantal Godin, qui aide les proches de personnes atteintes de troubles de santé mentale. Chantal, on a un petit peu couvert le côté des enfants, le côté des parents. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand la personne atteinte, c'est notre conjoint ou notre conjointe?
Ben écoutez, c'est sûr que ça a un impact sur l'ensemble de la famille, je vous dirais aussi quand même.
Oui.
Mais effectivement, il y a aussi un volet plus adulte où les gens sont... il y a des groupes d'entraide, de l'intervention individuelle qui est possible d'être fait auprès du conjoint-conjointe pour pouvoir... Puis il y a aussi un volet que nous, on a ici, qui est le répit, qui permet aussi de pouvoir justement profiter d'un moment pour soi. Parce qu'il est important de penser, à la personne qui est atteinte, de bien l'entourer, mais l'impact de la maladie mentale, elle a aussi un impact sur la personne, le conjoint qui vit avec la personne atteinte. Alors, afin de rester fort, positif, puis éviter le risque d'épuisement, ben souvent, on offre à ces personnes-là d'avoir du répit, autant pour quand c'est pour son conjoint que son enfant.
Je pense que vous avez l'occasion d'offrir ça dans un beau, un bel environnement, Manoir des Augustines.
Oui. Oui, bien, c'est tout à fait. Le Manoir des Augustines, les gens ont l'opportunité d'aller soit une nuitée ou une journée au Manoir des Augustines, qui est un endroit de recueillement où il y a possibilité d'avoir des activités aussi en journée, soit il y a du yoga, il y a des activités plus de réflexion aussi. Alors, c'est un bel endroit. Puis des fois aussi, c'est aussi simple qu'une journée ou une soirée au cinéma. Là, hein? Ça peut être un moment sans de pouvoir vivre sans culpabilité aussi, d'apprécier ce moment-là seul ou peut-être accompagné par quelqu'un d'autre, mais seul, souvent, c'est intéressant aussi.
Bien, vous avez nommé le mot-clé, hein, culpabilité. J'imagine pour tous les proches aidants, c'est prendre soin de soi, ça vient avec une forme de culpabilité, alors qu'au fond, on nourrit notre batterie pour continuer à pouvoir aider.
Oui, bien, tout à fait. Hein. Justement, comme vous l'avez dit, les gens, les proches s'oublient souvent dans ce parcours-là. Puis, il est essentiel, autant pour eux que pour la personne atteinte, de pouvoir s'offrir un moment de ressourcement puis de prendre soin de soi pour être autour, pour bien encadrer ou bien soutenir, je dirais, la personne qui est atteinte. Parce qu'il faut pas oublier, hein, la personne qui est atteinte a besoin de son entourage autour d'elle, de sa famille. Elle a besoin de ce soutien-là pour être en mesure de pouvoir poursuivre son cheminement personnel à elle aussi. Alors, si la personne qui accompagne la personne atteinte s'oublie, ben à un moment donné, elle va perdre une belle ressource, là.
Et si notre proche est atteint justement d'un trouble qui fait qu'il a tendance à être en opposition ou de dire « j'ai pas besoin de toi de toute façon », c'est pas facile là, de dire « bon, c'est son trouble qui fait qu'il me rejette
».
Comme à un moment donné, j'imagine qu'on se demande si on a atteint nos limites. Je parle d'un conjoint, entre autres, là. Conjoint.
Oui. Oui, ben tout à fait. Vous avez tout à fait raison. On se remet facilement en question quand on a un conjoint ou une conjointe qui est peut-être pas avec un enjeu de santé mentale. Alors, c'est difficile aussi. Puis on peut pas toujours remettre ça sur le fait de puis d'excuser le tout. Fait que tu sais, c'est toujours à se remettre en question. Puis je pense qu'il est important à ce moment-là de soutenir le proche qui est en détresse. Tu sais, c'est notre objectif là, d'aider cette personne-là qui est en détresse, de pouvoir lui redonner des points de repère aussi et qu'elle reprenne sa vie en main. Et de responsabiliser la personne atteinte aussi. Des fois, les personnes atteintes vont demander beaucoup, mais c'est la raison pourquoi le proche va s'épuiser. Alors, on remet souvent l'importance de mettre les limites, c'est important, de donner l'espace, du temps, de prendre soin d'eux, c'est vraiment important, c'est la clé. Oui. Pour pouvoir accompagner une personne qui a une problématique de santé mentale.
Mais je comprends que si vous existez et vous en parlez là, avec passion, c'est que c'est un message qui est difficile à oui. penser ou à accepter.
Oui, bien effectivement, c'est très difficile parce qu'on a tendance à vouloir aider et toujours vous donner plus en espérant d'avoir... Tu sais qu'en bout de ligne, ça finisse par bien finir. Hein? C'est ça qu'on se dit. Plus j'en donne, plus ça va aller mieux. Puis la personne atteinte va toujours mieux aller. Mais chacun a sa responsabilité dans cet enjeu-là. Alors, chacun doit aussi être capable de pouvoir progresser. Et puis, je répète encore, ne pas s'oublier. C'est ça le plus important, ne pas s'oublier.
Et Chantal, qu'est-ce qu'on dit à notre proche si, justement, la personne atteinte nous dit « Ah, tu veux partir une nuitée, tu m'abandonnes, tu m'aimes pas. » T'sais, si la personne joue, justement, avec cette culpabilité-là, ça doit être doublement difficile.
Ouais, ben effectivement, ben c'est là où la culpabilité doit être mise en place, je dirais, parce qu'effectivement c'est on doit se choisir pour être capable d'accompagner la personne atteinte. On doit en premier lieu se choisir. Si on ne se choisit pas, on a de la difficulté à poursuivre. Alors, écoutez, on peut pas. C'est sûr et certain que c'est difficile. Mais c'est des choix qui, des fois, on doit faire. Et c'est la raison pourquoi le soutien qui est offert à la boussole permet un cheminement aussi à la personne qui accompagne la personne atteinte de pouvoir, justement, arriver à cette étape-là.
Je vous lance ça comme ça. Admettons qu'on a débuté une relation avec quelqu'un, puis je ne sais pas moi, que soit la personne est atteinte d'un trouble de santé mentale ou qu'il y a quelque chose, puis on veut peut-être pas se rassurer, mais avoir un peu un aperçu de dans quoi je m'embarque, est-ce que je m'embarque dans ça? Est-ce que c'est le genre de problématique que votre ligne d'écoute peut entendre?
Écoutez, c'est sûr que la ligne d'écoute est un endroit où les gens peuvent venir ventiler, je vous dirais plus, mais il n'y a pas de conseil à ce niveau-là et dire c'est vraiment plus on écoute, on est capable de partager certaines informations, mais il n'y a pas de conseil à ce niveau-là, je vous dirais.
Et tout ce travail-là que vous faites, Chantal, qui sont vos partenaires financiers à la boussole?
Évidemment, notre partenaire majeur, c'est vraiment le ministère de la Santé et Services sociaux qui nous aide. On a aussi certaines fondations. Ici, il y a la Fondation Dufresne-Gauthier. Le Mouvement Desjardins est toujours un bon partenaire aussi. La Ville de Québec est un partenaire. Et évidemment, on a des membres qui sont très généreux et des donateurs. Ce sont nos moyens de financement, je vous dirais. Centraide en est un autre aussi.
Donc, si on veut soutenir votre cause, on va sur votre site Internet?
Oui, tout à fait. Surtout en mentionnant que nos services sont tous gratuits. Oui, on a toujours besoin de dons.
Okay. Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir parlé de la réalité des proches de personnes atteintes de troubles de santé mentale et de tout ce que la boussole peut faire pour eux.
Bien, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Chantal Godin, directrice générale de La Boussole. Donc, vous avez vu aujourd'hui, notre thème était autour de la santé physique et mentale. Et je retiens de nos deux entretiens l'importance de prendre soin de nous. Alors, tiens, je vous propose une belle balade nature avec nos différentes émissions. Vous les retrouverez à canalem.vusevoix.com et payez-vous une petite thérapie. J'ai trouvé ça, notre terme japonais, le Shirin Yoku. Donc, offrez-vous cette belle balade ressourçante et la reconnaissance, c'est toujours bon aussi pour la santé mentale. Alors, merci à Catherine Bourderon, recherchiste, Mathieu Tessier en régie et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et je vous salue, Chantal Doré, au micro des Héros anonymes. Si vous connaissez des gens qui font la différence dans leur milieu et qui se disent « moi, j'ai vu une problématique et il fallait que j'agisse là-dessus », appelez-nous, on a envie de les entendre à ce micro et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux Héros anonymes. À très bientôt. Au revoir.